La bande originale, Laïla Kadomounadi, Daniel Morin, l'équipe pour revivre en cette semaine des vacances les meilleurs moments.
Tout meilleur.
Si vous avez la chance de prendre des vacances, profitez bien. Sinon, courage pour le boulot. Ce matin, une série sur le milieu du stand-up. Et évidemment, il y en a beaucoup d'humoristes autour de cette table. Et puis, elle a passé la frontière, la limite, Agnès Hurcel, en devenant réalisatrice, auteur de cette série, avec entre autres dans les rôles principaux Jonathan Lambert. Ils sont tous les deux nos invités.
Ce lancement me dégoûte. On a l'impression que l'émission va être bonne.
Mais oui, je t'assure. Ça s'appelle Jeune et Gaulerie. Agnès Hurcel et Jonathan Lambert sont nos invités jusqu'à midi et demi dans la bande originale. Ouais, ça va être dur.
Pour une super série, ça va être super facile.
Ça va être dur parce qu'on les aime deux. La série est géniale. Donc ceux qui râlent d'avance en disant mais oui, mais vous êtes toujours là dans la bienveillance, dans le ceci, dans le cela. Eh ben cassez-vous parce que on va l'être.
Qui dit ça? Nagui dans les couloirs, c'est une petite.
Ah oui, mais à l'antenne.
Mais non, on a invité Agnès et Jonathan parce qu'on a trouvé la série super.
Clairement.
Très sincèrement.
Clairement. Voilà. Il y a zéro favoritisme, il y a que de l'admiration et de l'amour pour ce travail, Jeune et Gaulerie. On en parle dans quelques instants, mais d'abord.
Leïla.
Ouais.
Johnny.
Qui?
Bah, l'idée.
Oui, mais quelle chanson?
L'idole des jeunes. Ah, on part sur la jeunesse.
Souvent me guette.
Donc, c'est pas Gaulerie.
Dommage.
C'est des chansons
c'est
avec
pas Gaulerie, Lambert dans les chansons.
C'est pas quoi
Lambert dans les chansons.
Gérard Lambert.
Ouais, super.
Gérard Lambert quand il répare ses mobilettes.
Qui chante?
Morgan.
Mes copains sont dans un cabane.
À part Renaud, je
suis
là.
Pardon.
Renaud, évidemment.
Moi, je dis comme ça, sans
plus. Ouais, ça, c'est quoi? T'étais avec Gérard Lambert, en fait.
Alors, pour moi, je suis une bande de jeunes. À moi tout seul.
Allez, bras dessus, bras dessous, les amis.
Je le prends la
gueule. Changer de partenaire.
La fort du trône, on est à la fort du trône aussi,
un peu, non?
Deux points pour Leïla. Qui chante ça?
Leïla, regarde Fanny. Leïla.
Ouais.
Moi j'ai eu un Morgan.
Moi je dirais Morgan, mais c'est parce que je l'aime. 16.
On dit ça, 16.
Mais j'ai jamais su.
Jeune et con, vieux et fou.
J'en ai débridé des scooters là-dessus. En roulant sans casque.
Non, et enfin, là, c'est
moi,
pas
on
ça.
Était jeune et con.
Avec modération.
Mais je trouve qu'on attendait beaucoup de ce monsieur et que finalement il est resté scotché à Jeune et con.
Ouais.
Alors qu'il envoyait du bois.
Il y a eu un peu Jeunesse France.
Il continue
pas mal d'albums, hein. Pas mal de disques.
Ouais.
Attention, qui chante ce titre?
Ah bah Tanguy, David Bowie bien sûr, Young American.
Mais non. Oh bah Tanguy bien sûr,
pardon,
qu'est-ce que vous êtes
que j'adore David Bowie, je connais à peu près toutes les chansons quoi, voilà. C'est, ça, bien sûr c'était pour moi, c'était pas pour les autres.
Je sais pas qui est de l'anglais. Je me mets. Moi, il y en a une que j'attends.
Non, laisse-la-moi.
Ne dis rien.
Laisse-la-moi.
On sait.
Une avec Jeune. À côté de laquelle je serais passé, tu veux dire?
Non.
Qui chante ça?
Fanny?
Moi, je connais
Fanny,
ça.
Fanny, c'est Lana Del Rey?
Non.
Non.
Ça ressemble en effet.
Ouais,
Morgan c'est l'esprit,
Wasting My Young Girl. London Grammar.
Non, c'est pas le.
Oui,
c'est
si, Wasting My Young Girl.
Oh putain,
oui,
joli.
Qui chante
London Grammar.
Joli.
Ah, je l'ai mérité ce point.
Ah, c'est quoi le titre?
Wasting My Young Years.
Gaspiller mes années de jeunesse. Un point pour Tanguy, un point pour Morgan, trois pour Leïla. Qui chante ça?
Leïla.
Ouais.
Oh, attends. Non.
Trop tard.
Les graisses vertes.
Qui?
Les graisses vertes.
Non.
Tanguy au hasard, Henri Salvador.
Exactement.
Oh. Au hasard.
Non.
Oh là là.
C'est pas faut rigoler. Mais c'est rapport avec la jeunesse.
Gaulerie.
C'est
ça qui m'a fait.
Gaulerie. Jeune et Gaulerie.
Moi je te parle sur la pour salade de fruits en plus.
Ah oui, bon filin.
Joli.
Salade de fruits.
C'est le seul que j'avais sur rigoler.
C'est joli.
On va trouver d'autres.
Joli, joli.
Tout se joue maintenant. 3 points pour Leïla, 2 pour Tanguy, 1 pour Morgane. Comment ça va, Fanny?
Bien.
Il se joue maintenant. Donc 4 points dans ce blind test.
Morgane.
Ouais.
F-U-N.
Ah non, Tanguy,
Fanny.
C'est.
C'est
ouais.
Fun.
Ouais,
oh,
ouais, voilà.
C'est We Are You.
Bravo. Oui.
J'ai eu 3 points, Agnès.
Et j'attendais Jeune Demoiselle Bégane.
Mais non, Forever Young de Bob Dylan.
C'est Morgane qui a gagné là.
Bah oui.
C'est rare.
Il salit ma
mémoire,
quoi.
Attends,
mais bravo. Mais t'as tellement raison de le souligner.
T'as pas 12 chroniques
à écrire.
C'est le seul mec.
Avant de partir, applaudissons d'abord Morgane Cadignan pour sa victoire. Et Agnès sur Stèle et Jonathan.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
R Jonathan Lambert, je tiens à le préciser, ce R de Rodolphe, il nous l'avait déjà expliqué à ce micro, c'est pour ça que je veux le rajouter. Agnès et Jonathan, on a commencé par vous complimenter avant même que vous soyez là. Bonjour, parce que c'est pas de l'entre-soi, c'est pas du piston, c'est pas du favoritisme, c'est de l'admiration pour Jeune Égolerie. Tellement c'est dingue, tellement c'est drôle, vraiment. C'est une réussite. Elle est née de quand exactement cette série
dans... En avril 2018. J'étais déjà ici. Non, j'étais pas encore ici.
Si.
C'est juste avant que j'arrive ici.
Si, si.
Quelques mois
avant. Il y a 3 ans donc. Ouais.
Je suis arrivée en août 2018 ici. Non.
T'es arrivée quand on n'était pas là donc.
Ouais.
C'est en août.
Le 28 août avec Alex Plut. Non, c'est arrivé parce que j'étais belle-mère d'un chat. J'étais belle-mère d'un chat.
Mais oui, c'est vrai.
J'en avais fait une chronique un jour.
Zlatounette.
Ouais. Et je me disais, c'est ça, Zlatounette. Je me disais, franchement, mon père me disait, estime-toi heureuse, sois pas une enfant. C'est un chat, donc un chat c'est cool, un chat ça meurt. Et donc c'est ça la genèse de ce truc.
C'est la première vanne, c'est ton père qui l'a trouvé,
ouais,
en fait.
Ouais.
D'accord. après, il y a eu Garde partagée de Zlatounette aussi.
Oui.
C'était,
ouais.
Et on retrouve cette idée de garde partagée. Quand, Agnès est venue vous présenter cette idée, Monsieur Lambert, comment avez-vous réagi d'abord et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Alors, elle n'est pas venue me la présenter. En fait, c'est
mon agent
la série.
Reçu.
Voilà, mon agent a reçu la série que j'ai lue. Je me
vous
souviens.
Vous ne connaissiez pas avant?
Du tout.
D'accord.
Non, enfin, non, si, on d'accord.
On s'était croisé
fête,
à un
pardon.
Plateau.
Ouais.
C'est ça?
Non.
Ah bon?
Bah non.
Pas
on s'est croisé à
Deauville
à un festival.
Oui, ça, je reconnais que j'ai oublié, mais sur le plateau de 60 secondes. 60...
Ah oui, c'est vrai.
Ah, voilà.
Je préfère occulter cette.
Ah bah voilà, chacun a son oubli.
Non, mais
chacun
Deauville...
veut oublier sa lecture de l'histoire.
Il y a quelques années, quand je t'ai croisé à ce festival, je me suis dit, c'est Francis.
Oui, ça, mais enfin, vous dites oui, mais
le personnage de la série.
C'est, parce que c'est Jonathan, Francis, mais c'est Francis.
Oui.
Voilà.
Et moi, j'ai lu la série que c'est vrai que j'ai bingé pour le coup la série en lecture et je m'en souviens très bien puisque il y avait un parfum un peu apocalyptique. C'était le vendredi 13 mars 2020.
Celui du confinement, celui de l'annonce.
Deux jours où ça commençait, on savait que.
Non, le vendredi tout fermé, les bars, les théâtres, le vendredi 13, tout fermé.
Ah ben voilà, je l'ai lu ce jour-là, le matin, en rentrant d'un festival qui était au Menuhir, je crois, donc j'ai pris le train, j'ai lu ce truc-là, et il y avait quelque chose d'extrêmement agréable, je me marrais seul en lisant, et je voyais tout le monde avec sa capuche, remontant son écharpe pour se commencer à
se protéger, inventer des masques de fortune
voilà,
avant qu'il ne soit
tout le monde qui se regardait, qui s'épiait en se disant, ça se trouvait là, ça se trouvait là, machin, donc il y avait vraiment un truc assez bizarre dans ce train, et donc j'ai ce souvenir impérissable de lire la série, et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai évidemment tout de suite adoré, et j'ai dit, je veux absolument faire les essais.
C'est la même chose pour nous, hein, c'est-à-dire que 8 épisodes, mais moi je me suis dit un soir, allez, je commence, mais en fait, je suis pas allée me coucher donc j'avais pas fini.
Évidemment.
Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs, je suis nostalgique, il va falloir faire quelque chose pour la saison 2, Agnès.
Okay.
Parce que moi j'ai perdu une bande de copains finalement, parce que ce soit Francis, que ce soit ton personnage, celui de Marie Papillon, celui aussi de Paul,
moi.
Mais non, mais c'est vrai, cet enfant aussi est très attachant, on se met à aimer des enfants, c'est fou.
Il faut préciser que la série n'est pas recommandé pour les moins de 10 ans parce que on voit Paul Mirabel torse nu et c'est vrai qu'il faudrait pas choquer toute la génération.
Monsieur Lambert.
Oui, mais alors sincèrement, je préfère voir les fesses de Monsieur Lambert que le torse de Paul Mirabel.
Moi, je préfère celle d'Agnès.
On va.
C'est toujours une question de point de vue. Hein. Elles sont là aussi.
Oui, mais moi, je ne pouvais pas me permettre de le dire.
Voilà,
tu vois,
c'est pour ça que c'est pour ça qu'on est deux.
Voilà.
Ça évolue.
Chacun ses fesses.
Ouais, t'as vu, c'est la parité.
Jeune Égolerie avec Agnès Surstel et Jonathan Lambert, on va continuer d'en parler, mais évidemment, nous sommes ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Morgane Cadignan est là.
Allez, ça va pas être facile maintenant. Très dur.
Il va falloir, Morgane, que tu nous expliques à quel point tu n'aimes pas Agnès ni Jonathan.
Bon, alors là, c'est simple, les deux, je peux pas vous sentir. Déjà parce que j'ai le nez bouché. Et ensuite, vous vous rendez compte que je travaille, que je peux pas binger des séries sans dormir toute ma vie. La série est sortie sur OCS le 2 septembre vers 11h du matin. Et je l'ai terminée le 2 septembre vers 3h du matin. Et encore, j'ai fait des petites pauses pour aller faire pipi. Je me suis fait plus avoir, c'est fini. La dernière saison de Succession, ça m'a coûté 2 canapes. Donc maintenant, je fais gaffe. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est la famille, t'as vu. Avec Agnès, on fait le même métier, on tend un peu à jouer dans les mêmes lieux et avoir des projets qui se ressemblent, donc ça serait tellement plus simple pour moi que ça soit un peu bof. Et tu fais chier, quoi. Mais voilà, non, mais la meuf, elle fait 1m35, elle a quand même réussi à mettre la barre hyper haute, quoi. Donc au lieu de tenter de passer au-dessus cette année, je vais choisir l'option Limbo pour le moment, si ça vous va. Cette série m'a fait me poser 2 grandes questions existentielles. La première, est-ce que je serais capable d'être belle-mère d'un enfant? Et la deuxième, est-ce que Jonathan Lambert est sexy? Mais revenons à la première question, si vous le voulez bien, parce que pour la deuxième, on a des yeux et la réponse. Donc c'est dur d'aimer un enfant qui n'est pas le tien. Déjà, quand c'est le tien, parfois c'est pas évident. C'est un peu comme un plat au resto. Tu l'aimes parce que c'est toi qui l'as commandé, donc maintenant qu'il est là, on va pas le renvoyer. Mais quand même, celui du voisin, il a l'air meilleur, non? Et puis le plat du jour du voisin, il chie pas dessus dans l'avion. Déjà, ton propre enfant, j'en ai pas, mais ça doit être compliqué. C'est un long chemin, la parentalité, un chemin sur lequel tu dois faire des pauses très souvent, parce que vous vous refilez la gastro tous les 100 mètres en circuit fermé. Les places en crèche, d'ailleurs, devrait être distribué avec un petit baluchon de Smecta. Et donc, apprendre à aimer un enfant parce que t'aimes son père ou sa mère, mais on parle toujours de l'acceptation du beau-parent par l'enfant, mais absolument jamais du contraire. Ouais. Et c'est dur pour l'adulte aussi. Toi, t'as rien demandé, tu tombes amoureuse d'un mec, t'as 3 papillons dans le ventre et plus ou moins pas envie qu'il parte tout de suite le matin. Et ça y est, tu te retrouves à démêler des cheveux qui sont pas les tiens, mais on est où là? Ça va dans les deux sens, c'est dur d'apprivoiser un gosse Fanny Rué, ça m'a bien mis un an et demi avant qu'elle arrête de hurler dans les centres commerciaux, quoi. Moi, j'ai eu une belle-mère, ma propre belle-mère, elle était jeune et gaulerie. Elle a connu mon père quand elle avait 25 ans. Et si je voulais la blesser, l'argument ultime, c'était le légendaire, mais t'es pas ma mère. Et elle me répondait, bah non, et alors? Et je répondais, bah j'avoue, je sais pas. Et à partir de là, on s'est aimés, toutes les deux, par manque de répartie, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est bien une belle-mère quand tu veux aller acheter des soutifs, parce que les boutiques avec ton daron qui demande à la vendeuse si le frère de princesse Tam Tam s'appelle Prince Tom Tom. À un moment, c'est long. C'est bien pour ça une belle-mère, les amis, ça fait une personne en plus qui lève les yeux au ciel quand ton père est lourdingue et ça fait du bien. Ta belle-mère, c'est pas vraiment ta mère, c'est pas vraiment ton père. Tu sais pas vraiment comment l'appeler, donc tu donnes souvent un petit surnom entre les deux. Moi, la mienne, c'est Loulou. D'ailleurs, je l'embrasse aussi fort qu'elle m'a aimée. Et parfois, je lui dis encore que c'est pas ma mère et elle me répond encore. Et alors, avec un ton qui veut dire que ça change rien du tout, parce que c'est comme cette série. Au bout du compte, c'est que de l'amour.
Yeah. Ouais. Ouais.
Ah la chialade.
Ouais.
Vous voulez pas venir, hein.
Ouais. Ouais.
Non mais la musique est super aussi.
Oui, c'est Meryl. Ça c'est Pierre Leroux.
Ça c'est Pierre Leroux.
Qui a été primé, hein, il faut le dire, parce que
Série Mania,
moi j'aime bien. C'est vrai qu'elle a un rôle très important, la musique.
Alors, meilleure musique à Série Mania et aussi meilleure série
française.
Ouais.
Énorme. C'est mérité, c'est mérité.
Série Mania, c'est une référence en plus.
Ouais.
Complètement.
Cette musique, parlons-en, parce que la musique, l'habillage, les idées de réalisation, on est dans les comédies un peu années 70,
ouais, nostalgiques,
c'est ça?
Ouais, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais sûre que dans le graphisme et dans la musique, on pouvait rajouter de la comédie. Et c'est vrai que mes références, c'était un peu François de Roubaix, Vladimir Cosma. Et dans le graphisme, non, enfin là je vous parle de la musique, mais j'étais sûre que chaque élément en post-prod pouvait rajouter de la comédie, et que ça voulait pas dire qu'il fallait souligner la modernité, genre en mettant forcément que du rap ou que des trucs qui ont l'air dans les effets modernes. J'étais sûre aussi que si on passait par un côté un peu 70s, un peu rétro, ça... En fait, le côté désuet rajoute de la comédie.
Mais y compris dans les vannes, c'est-à-dire qu'il y a des vannes extrêmement actuelles. Il y a un ton qui est clairement jeune dans les caves de stand-up. Et il y a des vannes de
pétiniste.
De vieux.
Bah, les blagues de Francis.
Ouais. Il y a des vannes de vieux. Non, je pense à la série sur les sur le taiseux. Il y a une série de vannes où on se dit mais elle a quel âge?
Les blagues de papa, quoi.
Elle a quel âge cette vanne? Sauf que le tout pour la vanne permet d'aller tellement loin qu'on finit par craquer et rire.
Et d'ailleurs, il finit en impro et c'est la meilleure. Et oui, mais c'est les blagues de nos papas, quoi.
Non, mais c'est ça. C'est aussi tout pour la vanne. C'est-à-dire que quand il y a une vanne qui est un peu limite, il faut quand même insister et aller le plus loin possible pour
de toute façon,
assumer.
Il y a deux comiques, hein, le comique de répétition et le comique de répétition. Donc c'est un peu ça, c'est d'enfoncer le truc. Non mais c'est cette rencontre qui effectivement... Enfin, moi ce que j'ai aimé, c'est, comme elle le dit souvent Agnès, c'est quoi d'accepter de devenir adulte. En fait, c'est vraiment le cœur de la série et ça passe aussi par l'humour.
Ce qui est formidable, c'est que cette phrase est présente deux fois et n'a pas la même résonance.
Ouais. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs à tout âge, parce qu'il y a des moments où à 50, 60 piges, on peut rester très gamin sur...
On joue
sur,
à l'adulte.
Parce qu'on n'a pas envie d'affronter les choses. Et à l'inverse, sur certains points de vue ou sur certains trucs de la vie, on veut être adulte et à d'autres moments, on refuse.
Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ça se passe dans le milieu du stand-up, dans le milieu des humoristes. En devenir, c'est-à-dire cette image d'être dans une cave et de tester des vannes pendant une dizaine de minutes ou un quart d'heure, et puis en suivant une espèce de planning écrit sur des ardoises, en peut-être piquant des vannes aux uns et aux autres, en les notant au fur et à mesure, et en les testant pour voir si ça mérite d'être un peu plus écrit et d'aller un peu plus loin, en espérant toujours qu'il y ait un producteur, une productrice qui passe par là et qui dise « je vais investir » ou « je vais te faire passer à la télé » ou « je vais te présenter quelqu'un de connu qui va te marrainer ou te parrainer ». Je dis « marrainer » parce que c'est Florence Forestier, en l'occurrence, qui est comme ça, l'espèce de fantôme de l'humour qui plane comme étant la déesse dont on attend juste un signe pour réussir sa carrière. Ça, c'est la toile de fond. L'autre côté plus humain, qui pourrait se passer dans n'importe quel milieu, celle d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle. Elle devient belle-mère, ne sachant absolument pas comment s'en sortir. Et les rapports avec cet enfant vont se nourrir mutuellement, au-delà des différences d'âge entre l'homme et la femme. Et c'est la petite fille qui va nourrir la grande, sauf que le problème, elle va la nourrir humainement, affectivement, et la faire devenir peut-être belle-mère ou quelque part adulte. Mais elle va surtout la nourrir en termes de spectacle. Et là arrive cette gêne, c'est-à-dire quel est le filtre qu'il y a entre la vie professionnelle d'humoriste qui balance des vannes et ce qu'ils n'en disent pas trop, ou est-ce qu'ils se moquent pas au risque de blesser des gens de leur entourage parce que c'est un sujet à vannes, c'était trop drôle et bing, j'ai envoyé.
Ouais.
J'ai résumé. Un peu,
hyper bien résumé. Il y avait une question, non?
Surtout, non, mais surtout.
Tout ce que t'as dit, c'est
non, mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ne le savent pas.
Oui, en c'est fait, la trahison.
Donc c'est une forme de trahison, mais c'est quelque chose de très personnel, puisque à ce moment-là, quand elle monte sur scène pour un peu vider son sac, puisque c'est un peu un exutoire de tout ce qu'elle vit tous les jours, elle le fait parce que ça lui fait du bien, mais à ce moment-là, les victimes entre guillemets potentielles ne le savent pas. Donc à quel moment sa propre conscience se dit, est-ce que c'est mal de faire rire avec les gens?
À quel moment sont-elles blessées ou pas quand elle découvre qu'on se moque d'elle ou qu'elles sont sujet d'un sketch? Morgane.
Et où là où c'est hyper bien fait, c'est que nous, c'est une question, enfin on en a déjà parlé avec Fanny, qu'on se pose tous en tant que stand-upper, à quel moment
tu...
Ouais, mais à quel moment tu trahis ta famille ou tes amis en racontant des trucs, et est-ce que le rire est plus fort, et souvent tu finis quand même par le faire.
De toute façon, c'était vraiment l'enjeu.
Juste attendre qu'il meure.
Aussi, mais ça, du coup, comme ça a été une série trop longue, mais ce sera la prochaine. c'est l'enjeu de cette série. La toile de fond, comme tu dis, l'arène, c'est le stand-up parce que c'est la jungle que je découvrais à ce moment-là et que ça me fascinait. Le prétexte, c'est la comédie romantique parce que c'est ce qui m'a nourri dans mon enfance avec Cousin à Notting Hill, tout ça. Le cœur de la série, c'est le buddy movie entre la petite et la grande. Moi, mon film culte, c'est Dumb and Dumber. Enfin, je sais pas, c'est un genre de Laurel et Hardy entre la petite et la grande. Mais la question, la thématique que je tisse dans tout ce truc, parce que c'est ce qui m'anime dans la vie, donc c'est ça que j'avais envie de traiter. C'est quoi la limite? Le rire, c'est quoi? Est-ce qu'on... En fait, j'ai l'impression qu'on monte sur scène pour faire rire alors qu'on a envie de pleurer. En tout cas, moi, ça a été mon moteur dans la vie. Mais du coup, ça me touche vachement de montrer des personnages comme ça. Le personnage de Nordine et de Paul aussi, c'est des gens qui viennent, qui s'inventent une identité d'adulte sur scène, qui sont un tout petit peu décalés par rapport à ce qu'ils sont dans la vie. Et je trouve ça hyper touchant. Et donc, à quel moment, est-ce que tu peux écrire sans blesser? Est-ce que tu peux faire rire et faire pleurer avec ce qui fait rire le public mais qui fait pleurer? Enfin, moi, c'est des questions qui... J'ai pas de réponse et du coup, c'est ça que j'avais envie de traiter, quoi.
Et puis, c'est aussi l'histoire d'une femme sur scène. Ouais. D'une femme qui, tu l'as expliqué, cette jungle-là qui est matérialisée par la scène dans cette cave où elle est face à tout ce monde-là,
très
seule.
Très proche, en plus.
C'est un ring, quoi. Il y a quelque chose...
C'est pas une cage parce qu'il y a pas de barreau et qu'on a le sentiment que tout peut interférer dangereusement, même.
Ouais, c'est une fille qui y va aussi dans la blague, qui n'hésite pas à aller jusqu'à ce qu'on pourrait imaginer être une forme de vulgarité, mais qui n'a pas peur des mots, mots qui pourraient choquer. Et d'ailleurs, elle a une liberté folle, en fait, cette héroïne. Même sexuellement, amoureusement, elle est libre, en fait. C'est aussi un personnage qu'on voit pas souvent.
Ouais, c'était vraiment le but, quoi. Hein. C'était vraiment le but, c'était d'écrire un personnage, déjà, une série drôle et pas que parce qu'il y a un truc de tragicomique qu'on a voulu avec ouais. Léa.
C'est extrêmement émouvant.
Mais comme dans la vie,
il y a des déclarations d'amour.
Ouais. Et la rupture, enfin.
Ah oui, oui, non, mais la déclaration d'amour entre Jeanne Pasquet, qui joue formidablement bien, et vous, elle est.
C'est chaud. Je pleurais sur le tournage.
Ouais, il y a de quoi.
Et en fait, ça sert à rien de pleurer sur le tournage, c'est nul. Il faut vraiment retenir, sinon les gens, ils vont pas pleurer quand ils vont regarder. Donc. Mais bref.
C'est une femme, qui est.
On voulait vraiment un personnage point de vue féminin, jeune. De la comédie, mais pas que, et qui soit comme dans les filles qu'on connaît dans la vie. C'est-à-dire, parfois, t'as les cheveux crades, parfois, tu pètes, parfois, tu dis des bêtises, parfois, tu manques de discernement, parfois, t'es au chômage, en retard.
La scène du P, moi, elle m'a fait la soirée, la scène du P.
Bah ouais. Mais parce que dans la vraie vie, je suis désolée.
C'est dans les 10 premières minutes du premier épisode.
Mais je sais pas, des personnages féminins qu'on écrit d'habitude pour les personnages masculins, quoi. Une meuf, elle peut être un peu débile, elle peut être un peu vulgaire, elle peut ne pas du tout avoir envie de baiser, elle peut avoir très très envie de baiser, et pourquoi on les écrit jamais, enfin. En France, en tout cas. Dans les séries anglaises, c'est là depuis très longtemps, dans les séries américaines aussi, mais. Et du coup, on avait envie de ça, et.
Non, et ça marche bien parce que ça n'enlève en rien sa féminité. On a au contraire l'impression d'être dans une sorte d'intimité. Et puis, il y a la fragilité qui vient immédiatement derrière. C'est-à-dire que c'est pas que quelqu'un de vulgaire.
Mais parce que pour moi, c'est ça, la féminité. Enfin, moi, je me reconnais pas du tout dans une féminité sereine. Esthétisée. Très et du pure. Coup, pour moi, la féminité, c'est ce que j'essaye de montrer à travers tous les personnages féminins de la série, tu vois.
Après, le message, c'est pas péter et vous serez belle, parce qu'il faut pas non plus que.
Mais ça veut dire. Vous n'en serez pas moins belle, en fait. En réalité,
c'est juste qu'on.
Ce que tu fais, toi, je peux le faire moi.
Peut-être qu'on s'en fout d'être belle, quoi.
Ouais. Et en fait, ce qui marche vachement bien dans la série, c'est votre couple. Le couple marche très, très bien. C'est-à-dire que parfois, on a des séries où on a des duos, des couples d'amour, comme ça, qui vivent une passion, où, bon, bah, ça joue. Mais on voit, mais là on a l'impression que vous êtes vraiment ensemble tous les deux.
Ça marche super bien. Mais c'était hyper important dans l'écriture et dans la direction et dans les casting et dans les scènes.
Mais je pense que c'est ce qui plaît aussi et c'est ce en quoi on peut s'identifier, c'est que les plus belles histoires d'amour, c'est quand effectivement il y a un obstacle, on se dit c'est pas du tout le mec qu'il faut pour cette nana et c'est pas du tout cette nana qu'il faut pour ce mec, et c'est toujours parce que c'est pas la personne qu'on attendait, ou ce mec pour ce mec, ou cette nana pour cette nana aussi, mais c'est ça qui est très joli dans une histoire d'amour.
Mais parce qu'en fait il l'a fait rire et il l'a fait jouir, donc ça c'est ça le démarrage entre eux, quoi.
Il se servir de ses doigts,
voilà.
Non mais c'est ça, c'est dit un
autre. Bien, on en a beaucoup parlé.
Non mais c'est vrai, on en a beaucoup, et pas que ici. Mais donc si vous devez cocher un critère, c'est celui-ci en premier.
Ah bien sûr, voilà.
Il y a ce monde aussi de l'humour qui est quand même alors très bienveillant dans la bande réunie autour d'Adé, qui est jouée par Marie Papillon, qui joue extrêmement bien son premier rôle dans une série, mais elle est performante et efficace. Mais il y a quand même ce milieu qui, alors vous le connaissez, vous fréquentez toutes les trois, Jonathan aussi, mais peut-être avec un peu plus de recul et d'expérience, mais est-ce que c'est vraiment ce genre de situation, c'est-à-dire on attend que un tel passe parce que ça va déclencher quelque chose dans notre carrière, et puis une légère tension qui peut y avoir aux concurrences entre.
Moi j'ai essayé d'être hyper honnête et j'ai été gentille. J'ai été très douce par rapport à ce que j'ai vécu dans les comédie clubs, et je pense que ce qu'on connaît toutes, mais le côté on te coupe le micro, le côté t'es chez toi et à 23h t'as ton téléphone, ton alarme qui sonne, faut prendre ton vélo, il faut aller jouer à 23h30, tu bides, on a essayé par exemple d'aller honnêtement, moi j'ai donné à Lison qui joue Alice des sketchs de mon premier spectacle qui sont mauvais et vulgaires, que j'assume entièrement, que j'aime avec amour et humilité, mais on a essayé de montrer aussi des gens qui se plantent, donc par moments c'est pas drôle, par moments t'entends des gens dans le public qui font et des verres qui se posent, parce que l'honnêteté de cette salle de sport là, c'est que tous les soirs tu n'es pas en galvanisation totale.
Et en même temps c'est une formidable école.
C'est toujours.
C'est une école.
Oui, c'est la meilleure école du monde. Ouais. Mais on a été soft.
Le groupe est assez bienveillant entre eux, ils sont copains, c'est vraiment, t'as été vraiment douce avec la réalité. Ça peut être beaucoup plus dur.
Est-ce qu'il y a ce côté, on se croise sur scène, on se croise dans une cave, et dans l'après-midi on prend des verres, et le matin on se voit, et le soir on va bouffer ensemble. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression qu'il y a un côté troupe des individus qui se croisent.
Ça c'est ce qu'on a voulu faire dans la série. Moi c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans le monde du cinéma. Enfin j'avais un ou deux amis en démarrant, et c'est vrai qu'on faisait tout ensemble, on écrivait ensemble, machin, donc c'était un peu comme ça. Après, je me suis fait des amis plus tard, ben, Marina et tout, des gens que j'ai rencontrés après.
Marina Rollman.
Mais on parle pas de stand-up et on fait Marina pas de stand-up.
Marina Rollman qui est même droppée.
Ouais.
Oui, oui.
Parce que c'est la ref, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est,
ça.
Ouais. C'est trop mignon. Trop
ouais, bon, trop n'oubliez mignon, pas voilà, la parole ouais. est citée, mais c'est plutôt le daron.
C'est drôle, non
ouais.
ça va.
Je prends très bien.
Et moi, je ne suis pas citée en revanche.
C'est un hommage.
Parce que je pense que tu vas être joué dans la saison 2.
Je suis juste après le P.
Juste après le P.
D'où le nom de ma boîte, Air Production. Jeune Collerie. C'est sur OCS. On peut déjà binger comme nous l'avons tous fait sur OCS Max les 8 épisodes. Vous êtes déjà, j'espère, en train de réfléchir à une saison 2. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais la musique est présente également avec des choix.
C'est génial.
Petit fantôme, Lio en anglais.
Ouais,
je
ouais.
connaissais pas.
Super, les brunes qu'on peut appeler des prunes en anglais.
Brunettes.
On va en parler, ouais, les pupettes, dont ouais, les brunettes, non, Arnaud Puppets. On va en parler dans quelques instants avec la bande originale également de vos vies à l'une et à l'autre, mais d'abord Florence Mendès.
Aujourd'hui, nous allons parler de nos amis les bêtes. Alors peut-être autour de la table avez-vous des animaux de compagnie. Je sais qu'ici à la bande originale, vous avez Fanny Ruet. Pour ma part, j'ai un chien. J'ai un chien et un enfant. Notez que je préfère les chiens, déjà parce que ça parle pas et parce que ça vit moins longtemps. Je plaisante, mais il est bête. Mon fils, il me dit souvent, je sais que tu préfères le chien, alors que franchement, je les aime autant l'un que l'autre. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'il y a quelques jours, le Sénat a adopté une proposition de loi pour lutter contre la maltraitance animale, tout en y apportant des modifications très décriées parmi les défenseurs des animaux. Par exemple, exit l'interdiction pour les parcs aquatiques de posséder des dauphins. Alors j'avoue, ça m'échappe, mais désolé, hein, mais les dauphins, c'est quand même des grosses crevures. On sait qu'ils ont entre autres des comportements de violeurs, et nous, on veut aller nager avec eux. Nager avec des violeurs, c'est comme faire du jardinage avec Émile Louis. Voilà. Bref. Exit aussi l'obligation de faire stériliser les chats errants. Alors là, je suis d'accord, il y a plus urgent, faut d'abord faire stériliser les candidats de télé-réalité. Et là, encore, je comprends pas tellement ce que les gens aiment chez les chats. Voilà, quand tu rentres chez toi et que t'as un chien, il t'accueille, il est content de te voir, tandis qu'un chat, il est là, salut, tu vas bien? Ah non, en fait, je viens de me rappeler, j'en ai rien à foutre. Et puis les chats, ils me détestent. Vraiment, les chats me détestent. Puis, mais non, Florence, regarde, ils t'aiment bien, ils se frottent contre toi. Oui, bah, comme les mecs dans le métro. Alors avec les chats, c'est encore pire. Vraiment, il y en avait deux chez mon ex qui me regardaient toujours l'air de dire, tiens, t'es encore là, toi. Les chats aussi, d'ailleurs. Je me souviens. Il y en avait une des deux qui était en chaleur, c'était l'enfer, vraiment l'enfer. Des heures de miaulements aigus et traînants, on aurait dit que dans la pièce d'à côté, il y avait un concert de Saez. C'était insupportable, vraiment insupportable. J'ai dit à mon ex, soit tu la stérilises, soit tu vas la niquer toi-même, mais il faut faire un truc vraiment à ce stade-là. Et puis, franchement, si t'es d'un naturel un peu dépressif, mais prends un chien, pas un chat. Ton chien, rien que par sa joie, il te rappelle chaque jour à quel point la vie est belle, tandis que le chat, tu te balances au bout de ta corde et il est là, il joue aux cartes avec ses autres potes chats et te lâche, hein. Dit Karine avec les copains, on se demandait, c'est quand encore que t'as cessé d'y croire? Voilà, je m'énerve. Je sais, il faut que je reste calme, mais il n'y a rien à faire. Je préférerais toujours les chiens. C'est eux qu'on prend pour sauver les gens. T'imagines, un chat d'avalanche. Il trouverait un type sous la neige. Il le regarderait en mode, c'est froid, hein. Et puis, il lui mettrait son trou de balle dans la face. Voilà.
Oui,
t'imagines, t'es seul chez toi, tu fais un AVC, mais ton chien, en deux secondes, il a appelé les secours. Ta mère décommandait ton rendez-vous chez le coiffeur et il t'a trouvé une place en centre de rééducation. Ton chat, il est là. Ben oui, je vois bien que tu convulses, Chantal. Enfin, ma gamelle, elle va pas se remplir toute seule. Hein, voilà. Non, vraiment, je préfère les chiens. J'aime tellement mon chien que je veux lui offrir une belle vie. Et évidemment, une belle mort. D'ailleurs, à ce sujet, c'est bizarre quand même. En France, on euthanasie les animaux, mais pas les gens. On veut pas que nos chiens souffrent inutilement, mais on laisse faire pour nos humains. En même temps, on n'a jamais vu un tétraplégique aller rechercher la balle ou remuer la queue. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
Vous êtes bien dans la bande originale. Il pleut des hommes. Je sais pas si c'est un vrai rêve qu'on pourrait...
Ça dépend des hommes.
Ça dépend desquels. Mais ouais. En tout cas, c'est Léonie Pernet. Et ça, c'est un vrai rêve parce qu'elle a un super album qui est sorti, Le Cirque de Consolation. Bisous, Léonie.
Cueillir
C'était Léonie Pernet avec Il pleut des hommes dans la bande et avec des bisous en plus de Leïla dans la bande originale d'Annie Surcelle et Jonathan Lambert sur Inter.
Avec des femmes j'aime, que j'aime.
Agnès Surcelle, Jonathan Lambert, parlons de Léa Domenac, parce que vous avez travaillé ensemble, que vous a-t-elle
on a
apporté
créé la série ensemble. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle a structuré tout ça, elle m'a écouté, lui raconté l'ADN que j'avais dans la tête, et elle m'a dit « j'achète pas, c'est nul, recommence ça, oui, ça, non, ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux avoir de l'empathie pour elle? Comment on y va ?» Bah, c'était une grosse exigence d'écriture pendant...
parce qu'il fallait de la rigueur
parce que, parce que moi, j'avais jamais écrit de série de ma vie, parce que...
Choronneuse.
Oui, mais enfin, franchement, je sais pas, parce qu'il y a des producteurs un peu fous qui m'ont offert cette place-là, Lorraine Efflard et Mickaël Gentil et Mathieu Siboni qui m'ont donné cette place-là, parce que, enfin, je veux dire, je suis jeune et tout, enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Et du coup, c'était des gens très exigeants, avec des gens en développement qui font des notes de lecture hyper scolaire et précise, et tu dois tous les matins recommencer à zéro jusqu'à ce que les gens valident, quoi. Les producteurs, puis la chaîne. Puis...
Certains personnages gardent leur prénom, d'autres non. Il faut comprendre quelque chose.
Les deux seuls qui gardent leur prénom, c'est Paul Mirabel Nordine. Et Nordine, parce que c'est des vraies scènes de peur. Ils nous ont offert leur vrai sketch, leur vrai spectacle, c'est leur vraie identité, à part que Paul, on lui rajoute une intrigue de fiction qui est mon amant
et une vie sexuelle.
Vandalisme, on lui rajoute une vie sexuelle qui est donc une vie de fiction. Mais je voulais vraiment qu'on puisse s'identifier.
Dans sa chronique,
c'est même science-fiction.
J'inventerai.
Il est génial d'ailleurs.
Ouais, super.
Mais il a peut-être déjà fait des quiches à des meufs à poil. Attends, je sais pas. Cette partie-là n'est pas du docu.
Hier, il a annoncé chercher une fille.
Toujours,
donc,
mais chaque semaine.
La femme
chaque
de
semaine,
sa fille.
Ouais, c'est un peu un running gag.
Il est en stand-by. se retrouver dans le rôle du vieux has-been. Jonathan. C'est évidemment, c'est drôle, c'est fait avec humour. Mais refaire une comédie romantique. D'abord, c'est pas des rôles qui se présentent tous les jours dans le cinéma français. Ces comédies romantiques sont plutôt rares.
Oui, et d'autant plus pour moi. C'est-à-dire que moi, on me proposait toujours. Moi, j'adore la comédie. Enfin, c'est le seul truc qui m'excite. Donc, j'étais heureux effectivement qu'on me propose un personnage qui sorte un peu des caractères un peu outranciers, un peu voilà. Il y avait quelque chose de très sincère.
Et... C'est même l'inverse. C'est-à-dire que
vous êtes plutôt
rigoureux dans votre mode d'éducation. Plutôt...
Oui. Et puis le personnage est drôle malgré lui. Je cherchais pas à être drôle sur le plateau ou quoi. Il fallait jouer toutes ces situations qui étaient écrites parce qu'il fallait faire exister cette histoire d'amour. Je trouve que c'est ce qui cohabite très bien et c'est la réussite de cette série, c'est que effectivement on est en empathie avec cette histoire, avec ces deux personnages, leur histoire d'amour, enfin tous les personnages, et en même temps il y a des moments où on se marre franchement, et ça c'est très difficile de faire cohabiter deux trucs.
Et de faire cohabiter une jeune bordélique avec un gars psychorigine.
Ouais. Mais c'est comme le nom des gens, enfin bah il y a Casmi qui joue ma mère dans la série, dont je suis fan depuis très 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 longtemps. C'était vraiment ça, c'est Gamblin et Sarah Forestier, et c'est pas tellement une différence d'âge qui ça c'est visuellement ça te prend au visage quand tu démarres le film, mais c'est pas ça, c'est que Gamblin, comme Francis, c'est notre référence, franchement je le dis, c'est il est en costard gris, il est expert comptable, il est daf, il est rigide, et elle, Sarah Forestier, elle est à poil dans le métro, si je caricature les deux scènes de... Et ben c'était un peu ça, c'est que comment des gens qui sont en échec et en chantier vont, parce qu'ils vont se rencontrer, se réparer. Et ça, je trouve ça trop beau dans la vie.
Alors, être à poil, ça fait également partie de c'était contractuel dans dans la série. C'était...
Franchement, j'avais pas réalisé en écrivant à quel point j'ai écrit des scènes de roulage de pelle et de gens à poil. Et quand j'ai vu le nombre de tests PCR que j'ai infligé à tout le monde tous les matins, et comment j'ai mal vécu ces scènes d'intimité à poil en string chair devant une équipe réduite, c'est-à-dire quand même 24 mecs barbus de 30 ans, car sur les tournages il n'y a que ça. Franchement, la saison 2, elle est au couvent, prune. Ça m'a pas du tout.
Elle est culotte.
Ouais,
mais non, mais c'est pas gratuit en plus, c'est
non,
ça.
Non, c'est jamais gratuit, mais c'est comme dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, quand tu te lèves et tu vas
travailler
la
nuit. Hein.
Ça dépend.
Mais tu vois, c'est pas esthétique.
Sur les seins. C'est non, c'est
la comédie.
Ça aide à l'intrigue. La première fois où on voit vos seins, c'est un déclic de scène d'humour et d'intrigue.
Oui. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça. Enfin, voilà, j'ai déjà vécu ça, donc voilà.
Mais c'est jamais ridicule. C'est pour ça que l'histoire d'amour, elle est hyper crédible, parce que même le personnage de Francis, il fait ses blagues, mais il est jamais ridicule.
Et quand il est à poil, c'est trop bien. Enfin, je sais pas, genre. Non, mais c'est comme dans la vie, c'est genre. Quand tu te lèves, t'es à poil.
Réel, parce que dans les films où tu viens de faire l'amour et tout d'un coup,
tu te relèves avec le drap.
Tu te relèves avec le drap, on va dire, mais en fait, personne ne fait vraiment ça.
Puis on a tous des couettes, quoi.
Ouais. Et moi, j'ai découvert deux trucs dans la série. C'est drôle, c'est quand j'ai regardé la série. Mais il y a deux trucs qui m'ont... J'ai dit, c'est super, j'étais évidemment très heureux parce que c'était très fidèle à ce que j'avais lu, mais me concernant, parce qu'évidemment, parfois, on a ce défaut de se regarder soi, en tous les cas, en première lecture, en se disant, est-ce que ça va? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je passe pas à côté de ça? Et il y a deux trucs qui m'ont marqué, j'avais dit à Agnès, c'est que je cours comme un débile, alors que je pensais bien courir, parce que par ailleurs, j'ai fait des marathons, des machins, alors je me suis dit, bon, là-dessus, pas de problème.
C'est le seul truc.
Je dis, mais je cours comme un débilos. Et l'autre truc, c'est effectivement, je ne savais pas que j'avais les fesses aussi blanches. Ça m'a.
On les a pas maquillés. C'était un budget OCS.
Voilà. Pourtant, c'est pas la première fois que vous en jouez de votre jolie dernière.
Du coup, c'est fini.
Je
mais les gens sur les réseaux
à la retraite
nous parlent beaucoup de tes abdos.
Ah bon.
Ouais. Rigoler.
Ouais. Ah, moi, je venais d'accoucher et tout. Franchement, non, c'était pas facile. Mais tout pour la comédie.
Ça va.
On va parler avec Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne et auteure de La famille recomposée. Pas facile, mais possible, justement, dans cette idée de devenir belle-mère ou beau-père. D'ailleurs, on évoquera les deux angles. Mais d'abord, la musique dans vos vies. Agnès Hurstel, vous écoutiez début des années 90.
Comment tu t'appelles?
À 440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmante.
Et où c'est chez toi?
Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Émilie Jolie.
C'est pas cette version-là, mais oui, c'était ça. Bah oui, Émilie Jolie.
Vous avez grandi avec Émilie Jolie.
Bah,
On est en 90, je suis en train de faire la bande originale de La vie d'Agnès Hurstel. Si on m'avait dit
et on est
ça
pas bourré.
Un soir tard, absolument. Généralement, c'est pas dans cette ambiance. Alors, cette vie, Agnès Hurstel, de quoi on parle? Peut-être de la famille, parce qu'elle est présente dans la série. À la fin de la série, parce que je suis une monomaniaque, je lis même les génériques, il y a quand même une sorte de big up à la saucisse de Toulouse et à la famille. Est-ce qu'ils sont proches, les parents que vous avez dans la vraie vie et les parents de Prune?
Oui.
Hyper.
Non, pas forcément le même milieu et tout, mais oui, mon père il chante l'opéra à poil et mes parents ils se roulent des pelles et ils parlent beaucoup de leur amour légendaire depuis plus de 30 ans, de leur sexualité. Il n'y a pas de tabou.
Et ça peut être gênant, ça, quand on grandit ?
Bah, c'est vraiment ce que Prune dit à son petit frère, qui ressemble beaucoup à mon petit frère.
Qui est génial, ce petit frère, ouais, qui est fou.
Enfin, on a caricaturé, mais je veux dire, ils ont adoré la série, mais mes parents, ils sont tellement désinhibés. Qu'il y a un moment où, quand moi j'étais ado, je me disais, mais il n'y a même aucun.
Je pourrais jamais arriver.
Il n'y a aucun espace illicite, dangereux. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas un truc à découvrir à l'adolescence, vu qu'ils prennent toute la place. Ils ont un amour extraordinaire, donc j'y arriverai jamais. Enfin, on était là, mon petit frère c'est un peu fort, mais on se disait,
qu'est-ce qu'on va faire ouais.
Mais c'est vraiment les beaux-parents qu'on rêve de rencontrer. Ouais, quoi. Ouais, ouais, Jérôme Lenôtre aussi, il est canon. Quoi. Et cette scène à jouer, c'était très marrant parce que. Il se dégageait Enfin, moi, j'étais vraiment dans cette espèce de situation où vous vous dites, putain, mais c'est génial de rencontrer des.
Le dimanche, je deviens sympa chez les beaux-parents.
C'est ça, exactement. C'est des gens très drôles.
Ouais, on n'a pas toujours envie de voir son beau-père à poil non plus, en train de faire des merguez. Hein.
Bah, elles étaient bonnes, en tous les cas.
Et pour continuer à évoquer un peu votre enfance, adolescence, Agnès, je vais te tutoyer. T'as eu un épisode médical hyper dur. Ouais. T'es 12 à tes 19 ans, en fait. T'avais une scoliose aggravée.
Ouais. J'ai porté un corset jour et nuit pendant 10 ans. J'arrive pas à en parler. Franchement, j'ai fait du stand-up il y a 5 ans exprès pour en parler sur scène. J'ai réussi. J'ai essayé de faire cette série pour en parler. J'arrive pas. Finalement, par pudeur, je fais des blagues, mais mon rêve, c'est d'en parler. J'arrive pas.
Ouais, ouais. Et en tout cas, si on n'en parle pas dans le détail, qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça a fait de toi forcément une femme différente?
Bah, déjà, ça m'a obligée à être la première de la classe et la plus rigolote parce que j'avais pas du tout les autres attributs adolescents. Et ça m'a rendue adulte à 11 ans. Parce que j'ai dû prendre conscience de la douleur physique, qui est un truc qui est pas normal, permanente. Et
c'est une grosse douleur.
Énorme, mais tu peux pas prendre des médocs. Donc, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'autres trucs plus tard, bien.
Non,
mais
et puis de comprendre qu'il y a des règles, des obligations, même des règles qui font mal, celles de mettre un corset, mais que c'est obligatoire, sinon c'est plus grave.
Mais donc... ça, tu te poses même pas la question parce qu'on te laisse pas le choix. On te dit pas soit tu te fais opérer, soit tu mets un corset. Et puis c'est juste ma routine quotidienne n'était pas du tout normale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du théâtre ou du chant, j'allais à l'hôpital de Garches. Et à la piscine et chez l'océan, mais trop bizarre. Mais au fond, je dis ça, ça fait un peu
non,
triste,
mais ça a changé.
Finalement, heureusement, le corps n'a pas la mémoire.
Ça concerne beaucoup de personnes qui écoutent aussi.
Sans doute. Et ce qui est génial, c'est de se dire que mon corps, qui était mon plus gros handicap jusqu'à mes 22 ans, est devenu mon meilleur atout après.
Ton outil de travail.
Ouais, mon outil de travail. Et genre, c'est ça qui m'a permis de séduire, d'avoir du plaisir, de. Enfin, franchement.
Bon, là, t'en fais trop, là.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai tout un truc. Le corps est la base de tout, quoi.
C'est une réappropriation de soi et on le voit dans la série aussi.
Pour moi, c'est pas difficile d'être à poil dans la série. C'est beaucoup plus difficile de dire je t'aime à quelqu'un ou de pleurer devant quelqu'un dans une scène. C'est montrer mes seins.
Jonathan Lambert, vous écoutez Nirvana, vous, dans les années 90. Vous avez découvert la musique avec Nirvana parce que. On va le dire, on se connaît aussi dans la vie privée. Vous êtes un dingue de musique, un connaisseur de musique, et vous allez chercher même. Quand je dis connaisseur de musique, c'est pas en savoir beaucoup sur les gens connus, c'est d'aller chercher des inconnus qui vous procurent du plaisir musical.
Ah ouais, mais ça a été vraiment. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon père était pété de musique aussi et avait toute une collection de vinyles à la maison. Donc j'ai grandi avec Neil Young, les Stones, Otis Redding.
Et vous avez gardé les vinyles de Rodolphe?
En partie, parce qu'il y en avait vraiment un paquet. Mais Nirvana. Donc je baignais dans toute cette culture là et tout d'un coup, je crois que c'est 90. Je sais plus, un truc comme ça. Et la première fois que j'ai entendu Smells Like Teen Spirit à la radio, je me souviens à l'époque c'était Wii FM, j'étais séché. C'était un nouveau son, c'était Seattle, c'était le grunge, c'était tout ce qui allait préfigurer après ce qui suivait. Enfin, c'était les héritiers de Neil Young déjà, mais il y avait un truc qui était, j'étais dingue de cet album. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc assez fou. C'est que vous savez le bébé qui est sur la couverture de l'album, il porte plainte
pour ce groupe
pédocriminalité.
Vous n'écoutez pas la bande originale tous les jours, alors, Jonathan.
Ah, vous en avez parlé.
Merci.
Alors moi je vous donne un scoop, je vais faire un procès pour gérontocriminalité dans la série d'Alès.
Ce qui est fou, c'est qu'il en a profité de cette notoriété en faisant plein de trucs, plein de happenings et en se faisant payer pour ça. Et que quelqu'un a dû lui dire, tu peux gagner
plus. C'est l'Amérique, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu peux gagner tant de millions si tu attaques maintenant. C'est fou.
Jonathan,
Oui.
Si on parlait du lycée.
Ouais.
Le lycée, ça n'a pas été complètement la fête absolue. Vous dites que vous avez fait en sorte de bosser pour en finir le plus tôt possible. Ouais. Et après, vous avez enchaîné pas mal de débuts d'études.
Ouais, en fait, j'osais pas trop m'avouer que je voulais faire ce métier-là parce que j'avais trop peur de l'échec. Donc, même pour rassurer mes parents, je leur disais que si je voulais travailler dans le spectacle, le cinéma, ce serait plus dans la prod, tout. Il y avait un côté, voilà, donc je vais faire des études de gestion. Voilà, j'arrivais pas
pour
à
rassurer,
voilà.
Ouais.
Et je sais qu'un jour, il y a un truc qui m'a beaucoup décoincé, je sais pas, mais mon père m'a apporté un jour un livre de François Perrier, qui était, je crois, Lettre à un jeune comédien, un petit livre qu'il avait écrit.
Oui, oui.
Et le fait que mon père m'apporte ça, c'était parce qu'on se parlait pas, il y avait beaucoup de pudeur chez mon père, et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas vas-y, si tu veux, au moins tente,
laisser passer.
Ça fait partie des petits trucs comme ça, des petits déclics.
Casabian, c'est ce que vous écoutiez, Agnès, en 2007. Ils ont fait Taratata, ils sont tellement cool, les Casabian.
Ah ouais ?
Tellement, tellement. Et cette musique évoque quoi pour toi ?
Fin du lycée en Angleterre, de danser pour, je sais pas, un truc hyper hyper joyeux.
Exutoire.
D'accord. Exutoire.
Vous avez fait votre lycée à Londres.
Ouais.
Vous êtes resté 3 années.
Ouais.
Et c'est aussi là-bas qu'on découvre l'humour anglais, j'imagine.
Ouais. Ouais, j'allais pas encore dans les comedy clubs parce qu'à Londres, tu peux pas vraiment sortir. Enfin, on avait des fausses cartes d'étudiantes, fausses cartes d'identité d'étudiantes, mais on n'allait pas encore au stand-up, mais on regardait des séries, quoi.
Ouais.
Mais c'était trop bien.
Et qui a ouvert la voie, justement, à cet humour-là, si différent ?
Ricky Gervais.
Ouais.
Déjà ?
Plus tard, Sharon Horgan.
Ok. Et la littérature, parce qu'on n'a pas parlé de Hippocane Cagne quand même, c'est normal.
Oui, après je suis rentrée de Londres et j'ai fait des études de lettres parce qu'il fallait rassurer mes parents et que j'ai pas osé me dire tout de suite que je voulais.
Donc, est-ce que c'est par la bande dessinée, par des romans
Les romans.
L'humour est passé par où ?
Mais moi j'étais pas du tout censée faire du théâtre, je voulais pas du tout parler sur scène, je voulais écrire des romans, je lisais des romans, je voulais faire du cirque et de la danse. Et après, par défaut, vu qu'à chaque fois je devais arrêter les trucs à cause de mon dos, je me suis mise à jouer et à parler. Et donc, oui, les romans à fond. À fond. Mais j'étais très très académique, très très scolaire, j'étais hyper chiante, j'étais hyper angoissée, j'étais hyper sérieuse. Et à 22 ans, après la prépa, après le corset, il y a un truc qui s'est. J'ai découvert l'humour après.
D'accord, mais quel auteur alors avant de découvrir l'humour ?
Attends, un auteur qui m'aurait donné envie de faire des blagues ?
Non, ou simplement d'aimer les mots déjà.
Non, mais il y en a tellement. Quand je suis petite, il y a Roald Dahl tous les soirs, Susie Morgenstern. Marie-Aude Muraille, Judy Blume, justement, tiens-toi droite sur le corset. Et après, plus tard, en prépa, il y a eu Aragon, il y a eu les auteurs américains, il y a eu. Mais c'était pas lié à l'humour. Hein.
Oui, ça,
Non, mais j'aurais bien aimé, j'aurais adoré te dire.
Non, mais peut-être qu'après les bandes dessinées.
Ouais, bandes dessinées, après quand j'ai fait du stand-up. C'était un exercice de. Le stand-up, c'est une gymnastique où tu dois être imparable. Ça doit être limpide en une punchline, et donc c'est exactement comme une bulle.
Comme une bulle, ouais.
C'est mon producteur qui me disait ça, vraiment, il faut que t'éditorialises ta pensée et que tu l'illustres, il faut que ce soit aussi limpide qu'une planche de BD.
Et là, quel auteur ?
Ah oh là là. Attends, j'entends Casabian. 1000. Évidemment, rien ne me vient. Gus. Tous les Gus. Tous les Francis et papa, Francis tombe amoureux, tout ça.
Les rubriques à braque, non ?
Non, c'est quoi ?
Ça, c'est plus ancien, ouais.
Ouais, pardon.
C'est Gottlieb.
Tous les BD, les requins marteaux, les BDQ, c'est ma passion, ça. Il y en a plein de Anouk Ricard, plein de trucs.
On va continuer de parler, revenir à Jeunes et Gaulerie, justement, cette série sur OCS, dont la toile de fond est, oui, l'humour, le monde du spectacle, mais aussi la famille recomposée, le fait de devenir belle-mère ou de devenir adulte. On vous a demandé, bonjour, Béatrice, de venir à ce micro. Béatrice Copper-Royer, vous êtes psychologue clinicienne et auteur de « Et la famille recomposée, pas facile, mais possible ». Il y en a énormément, de plus en plus, des familles recomposées.
Énormément.
C'est comptabilisé quelque part ou...
Non, je ne sais pas. Moi, je déteste les chiffres, donc je ne sais pas.
Oublions.
Mais je sais qu'en tous les cas, il y en a beaucoup et que en consultation, j'ai affaire très souvent à des adolescents, puisque je m'occupe beaucoup d'adolescents qui me parlent de leurs beaux-parents, notamment les filles de leur belle-mère. Les relations se construisent, peuvent tout à fait devenir harmonieuses, mais ça ne va pas de soi.
Et donc, parfois, c'est conflictuel.
Voilà, et cette fameuse phrase évoquée tout à l'heure que je pense beaucoup d'enfants ont pu dire, ou beaucoup de beaux-parents ont pu entendre, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, c'est évidemment le premier réflexe. Ouais. Et c'est vrai que la meilleure réponse a été dite tout à l'heure, bah oui, évidemment, je suis pas ton père, évidemment, je suis pas ta mère.
Dieu m'en préserve.
Voilà. Non, c'est pas ça. Mais ça change rien. Et est-ce que le problème, puisque c'est ce que pose aussi la série, le problème, et on évoque toujours le problème de la place de l'enfant, comment peut-il se positionner par rapport à ce nouveau couple qui va l'éduquer. Mais c'est vrai qu'on ne pose pas la question de savoir comment la belle-mère, elle ou le beau-père, peut se placer.
Alors la belle-mère, ça dépend beaucoup de la place que lui donne le père. Parce que en réalité, il me semble que ce qui va être très très important pour la belle-mère, qui donc n'a pas une tâche très facile de toutes les façons, c'est d'être soutenue par son conjoint, par son compagnon. Et,
dans son rôle.
Dans son rôle, et que donc l'enfant comprenne clairement qu'effectivement la belle-mère c'est pas la mère, mais que c'est pas parce que c'est pas la mère qu'elle n'a aucune place. Et quand
mais cette
vit...
place, pardon, comment la situer ? Est-ce qu'elle doit ? Parce que certaines vont tout faire pour entre guillemets acheter. L'expression n'est pas belle, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Mais être sympa, être cool, et
des
pour
magos,
justement
ouais.
Voilà, pour que l'amour soit au rendez-vous. D'autres vont être tyranniques parce que il y a elle veut faire sa place et marquer son autorité, donc c'est assez.
Mais justement, moi je crois qu'il faut sortir de l'obligation d'amour. Il n'y a aucune obligation d'amour, en revanche, il y a une obligation de respect. Donc on part déjà de ça. C'est-à-dire, on se dit bonjour, au revoir, merci, on ne se claque pas la porte au nez. Et quand on vous pose une question, on répond. Et puis ensuite, l'amour, peut-être qui va venir, mais ça va être la cerise sur le gâteau et ça va se construire certainement pas du jour au lendemain. Parce que l'enfant, il peut être aussi, la fille notamment, elle peut être quand même dans un conflit de loyauté par rapport à sa propre mère. Et puis à l'adolescence, c'est très agréable aussi d'avoir une cible, voilà, sur qui tirer.
Si on y rajoute en plus Œdipe dans l'histoire et la compétition de l'amour du père, ça,
voilà,
ça simplifie
c'est
pas
quand
les
même
choses.
Une rivale. Ouais. C'est quand même une rivale. Et puis en plus, ça lui rappelle que son père a une sexualité et les adolescents détestent avoir une référence à la sexualité de leurs parents. Donc tout ça est quand même un peu compliqué. Et on ne peut pas imaginer en tant qu'adulte que ça va être si simple. Et parfois, je trouve que les adultes oublient un peu que, bien sûr que le lien peut se construire, mais qu'il ne va pas de soi et qu'il faut du temps. Il faut beaucoup en parler, il faut beaucoup en parler d'ailleurs en amont, et puis ensuite se donner du temps pour que chacun arrive tranquillement à se supporter, à se respecter et parfois à s'aimer.
C'est sous-tendu que toutes les parties soient bienveillantes, c'est-à-dire
exactement.
Que la mère de l'enfant, qui est incarnée par Ophélia Kalb, qui est super,
bienveillante. C'est
une
bienveillante.
C'est parce que pareil, on voulait pas du cliché. On voulait l'ex. Elle est pas jalouse de son ex. Elle veut juste que son enfant cohabite correctement avec une belle-mère.
Ça. Alors ça déjà, c'est bien parti.
Ah bah oui. C'est une fiction. On écrit les fictions qu'on aimerait voir dans la vie.
C'est rare.
Non, c'est pas rare.
La connivence entre une divorcée et une belle-mère.
C'est ça arrive, mais disons que quand la fille est coincée entre une mère qui lui dit que sa belle-mère est juste une horreur et son père pour qui c'est un amour formidable, évidemment que c'est un peu compliqué et qu'elle sait plus très bien comment.
Si je peux me permettre, les mots déjà posent une sorte de rapport qui est très très problématique parce que le belle-mère,
beau,
on disait
beau, belle,
on disait marâtre, et la marâtre, tous les mots avec un suffixe en âtre, c'est verdâtre, c'est péjoratif. Donc déjà, il y avait ce, je ne sais pas si ça existe par âtre.
Ça a été changé depuis très longtemps, au Moyen-Âge.
Ça voulait dire beaucoup de choses quand même, la marâtre.
Mais de toutes les façons, la belle-mère et donc la marâtre, elle a très mauvaise presse dans la légende populaire.
Hein, c'est pour ça qu'on a mis Jeanne Garcinet pour changer ça.
Donc pour résumer, il faut préparer un peu le terrain, y aller progressivement, avoir le soutien de l'autre, entre guillemets.
Il ne faut pas être trop dans la séduction, parce que les adolescentes, elles s'y trompent pas du tout.
Et créer une complicité aussi, des vrais liens, c'est-à-dire une activité qui soit le terrain de prédilection de ce rapport-là, justement.
Oui, ça certainement. Et par exemple, les vacances, souvent, sont l'occasion de se retrouver d'avoir une activité commune amusante. Et voilà. Donc, c'est pas à pas, petit à petit, et certainement pas d'un coup.
Votre livre s'appelle « Et la famille recomposée, pas facile, mais possible », c'est chez Solar. Merci exactement. Béatrice Copper-Royer d'être venue à ce micro. Monsieur Tanguy Basturo de retour, tu parles de quoi aujourd'hui ?
Je veux parler d'Apple qui a présenté lundi ses nouveaux produits, MacBook Pro, HomePod, tout ça, mais surtout la chiffonnette.
Bande originale avec le meilleur de la bande originale cette semaine. C'est reparti avec Agnès Surcel et Jonathan Lambert dans Jeune et Gaulerie.
Dans Jeune et Gaulerie, à voir sur OCS.
On peut encore, c'est encore
oui, on peut,
en replay.
On peut toujours, toute sa vie, on peut regarder Jeune et Gaulerie.
Ça va, il y a autre chose, on n'est pas obligé de regarder ça encore
si,
une
si,
fois.
Si, on aime Agnès.
Et on va même continuer d'en parler
on aime Lambert.
Jusqu'à midi et demi. Agnès Surcel et Jonathan Lambert. Ça s'appelle Jeune et Gaulerie. Et cette série fraîche.
Un bonbon.
Ouais, un bonbon et en même temps on rit, on pleure. Et ce qui est bien, parce que en jouant avec l'humour actuel et l'humour blague carambar, j'ai envie de dire, l'humour de Yeuve, et ben c'est que d'abord ça peut plaire à tout le monde et qu'on se rend compte en plus, qu'il y a des vannes qui peuvent paraître totalement datées, qui peuvent faire à nouveau rire. Ça dépend comment c'est fait et je trouve que la notion de nos limites. Et tu sais quoi, t'as pas ri à cette première vanne-là, je vais t'en faire une deuxième, puis une troisième, une quatrième. et avec c'est pour ça que je parlais de la rubrique à braque, parce qu'il y a comme la petite coccinelle, si vous découvrez Agnès Surcel, la rubrique à braque, il y a une petite coccinelle qui est dans la bulle et qui observe la vanne qui est dans la bulle et qui en fait un commentaire.
Okay.
Et ben vous avez exactement ce rôle-là quand votre père dans la série et votre amant dans la série se font des vannes à deux balles autour de tes œufs. Ouais, c'est la petite coccinelle.
On va toutes les faire. Donc.
C'est la petite coccinelle qui fait bon, ça va.
Ou au musée, quand le personnage de Prune parle avec Napoléon.
Ouais.
Et ça m'a fait hurler de rire. Quoi. Ouais. Ça, c'était hyper bien vu. Et on n'a pas assez parlé du frère aussi.
Ouais, Thomas Gioria qui était dans Jusqu'à la garde,
qui rêve d'être gendarme.
Qui rêve d'être gendarme.
Non, de passer le concours.
Et qui fait
tout pour être préparé.
Et qui se camoufle
dans le jardin.
Et qui ne veut pas s'éparpiller, qui donc n'a pas de petite amie.
Voilà.
Le fait de noter des choses, d'avoir une espèce de carnet, est-ce que c'est un réflexe? D'ailleurs, la question est. Et pour tous les quatre, Fanny, Morgane, vous et Tanguy, est-ce que vous notez ce que vous vivez, ce que vous entendez en disant ça peut faire une vanne ? C'est pas sûr que ça en fasse une, mais ça peut.
Tout, je note aussi bien les bouts de phrases de mon fils que les dessins, que les rêves, que des trucs que j'entends ou ouais, c'est autant des dessins. Enfin oui, je sais pas, j'ai un carnet tout le temps.
Morgane ?
À fond, ouais. Ouais.
Fanny aussi.
Absolument tout ce qui peut être utilisé dans la fiction, que ce soit drôle, pas drôle, même si c'est juste un truc qui me touche d'une manière ou d'une autre, je note tout.
Tanguy aussi ?
Ben non, jamais, non. Ben non, c'est vrai, je me mets devant la feuille et c'est à ce moment-là que je réfléchis, mais
Tanguy,
jamais.
Tanguy, les permnésies qui se souviennent toutes.
Ouais. Non, je sais pas.
Oui, tu dois le noter quelque part dans ta tête sans t'en rendre compte.
Après, l'avantage des chroniques quotidiennes, c'est que tu le notes et tu le redis tout de suite.
Oui, directement.
Même si c'est pas drôle.
Et qu'il faut
vite. Tu testes en live tous les jours.
C'est vrai que l'un des problèmes, c'est de l'alimentation, entre guillemets, de la vanne. Et puis alors l'autre problème qui est évoqué aussi dans la série, mais on va pas dire sur quoi il est évoqué, c'est quand on a un tube, quand on a un succès et que le public attend cette vanne, attend ce sketch. Et
c'est ce que disait Jonathan par rapport à ses interprétations chez Ruquier, en fait, ses personnages.
Oui, c'est quand le succès vous échappe un peu. Enfin, que c'est, voilà, c'est vrai,
alors que toi, ça t'as plus envie de le faire. Ou que toi,
comment gérer ça? Il faut le donner au public quand même parce que on est là grâce à lui.
Moi, je me souviens notamment, c'était Damien Béziers à chaque fois on me parlait de ça, et donc au bout d'un moment, on se dit bon, c'est un peu réducteur. Donc quand on m'a demandé de le refaire dans une émission, j'ai dit ok, je le fais, mais je le tue. Comme ça, on me redemandera plus jamais.
C'est faux, tu l'as fait, on n'oubliait pas les paroles.
Oui, mais c'était après cette émission, on m'a redemandé. C'était Dominique Farrugia, parce que c'est avec lui que
j'ai démarré. Tout te demander.
Et j'ai dit, évidemment, ok, je le fais, mais juste permets-moi un truc. À la fin, il y a un mec qui arrive et qui le tue. Comme ça, j'expliquerai. Non, c'est fini.
Il est mort.
Il est mort. Voilà.
C'est malin.
Vous aussi, ça vous arrive que dans des spectacles, en tout cas, dans la salle, quelqu'un se mêle. C'est la fameuse réplique que vous faites à un moment donné en disant c'est pas
ta
un dialogue.
Gueule, c'est pas un dialogue, c'est un truc que je faisais au Sonar quand j'ai démarré, mais ce qui est odieux, enfin, c'était hyper violent. Mais on sait ça avec Jean-Philippe de Tinguy, bref.
Même pendant l'amour, hein, elle dit ça.
Elle dit ça, moi, ce que j'ai compris sur scène, c'est que quand tu montes sur scène dans une énergie, tu imbibes les gens dans la salle de ton énergie. pas quand tu fais des immenses salles, mais quand tu fais des toutes petites salles, si t'arrives tendu, tu tends les 30 personnes en face. Si t'arrives détendu, tu détends et tout le monde te suit. Et donc, il y a ça, mais donc.
On ressent ça.
On ressent ça. Il y a un truc, les gens s'imbibent de l'énergie avec laquelle t'arrives et du coup, prune, elle se crispe, elle crispe tout le monde. Alors que je pense que si t'es honnête et que tu lâches prise et que tu dis, OK, vous voulez ça? Sauf que ça, c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière et ça me fait pleurer. Donc, venez, on parle d'autre chose. Enfin, en fait. Ouais, le stand-up réaction. Te permet d'enlever le quatrième mur et d'être en impro aussi, et sans filtre, et
oui,
de raconter les vraies choses.
On a le sentiment que l'humour est une forme de protection pour se soigner des plaies, forme d'exutoire, de sortir aussi tous les mots que l'on peut balader. Et en même temps, c'est là où on est vraiment nu.
Ouais.
Et en danger.
Ouais. Mais t'es sur scène, ouais. Donc t'es quand même... sur une estrade un tout petit peu au-dessus de la réalité.
Et dans la lumière. Peux...
Bah, en fait, dès que tu mets des mots sur quelque chose, tu le transformes et donc tu vas vers la fiction et donc tu vas aussi vers la réparation. Enfin...
Ok.
Moi, j'ai pas trouvé mieux que de faire ça, en tout cas.
Très bien, mais et nous, ça nous va. Faut rien changer.
On peut continuer, ouais.
Et voici Tanguy Pasturo.
J'adore cet homme.
Cette semaine, il y a eu une keynote, la grande réunion Tupperware pour Geek, où sont présentés les nouveaux produits Apple. Alors, ça s'est passé lundi en Californie, état chanté par Julien Clerc et brûlé par les flammes, sans qu'il y ait de lien de cause à effet. Quand Julien Clerc chante, ça ne fout pas le feu. Hein, sinon, il serait invité à tous les barbecues. Donc, à 10h, heure californienne, Tim Cook, le PDG, est donc arrivé d'un pas tranquille, rythme californien. Hein, là-bas, même Laurent Dutch s'exprimerait à une vitesse normale. La Californie, c'est l'état de naissance de Snoop Dogg, le rappeur déchiré, et de Gwyneth Paltrow, l'actrice timbrée qui fait son yoga entouré de bougies, parfum, vagin ou anus.
C'est vrai.
Et la Californie, c'est lent. Il y fait trop chaud. Même dans Zorro qui se déroulait en Californie, il se passait rien. On voyait un type masqué, mais qui à chaque fois devait rater la soirée coquine, parce qu'il finissait par se barrer à cheval en criant « Je vais encore pouvoir me la coller derrière l'oreille ». Donc, Tim Cook est arrivé peinard, mais quand il vient, c'est parce qu'il a du neuf. C'est pas le genre à vous appeler en vous disant « Non, c'était juste comme ça hein ». Et il a dégainé le sagouin. 10h05, première annonce. Siri va proposer des playlists correspondant à des moments de vie. Un dîner, Siri jouera des titres sympas, mais pas marquants, à l'écoute desquels on ne s'arrête pas de mâcher pour écouter les paroles. Moi, j'écoute Amel Bent, par exemple, qu'en mangeant. Chaque étape de la journée aura sa playlist. Vous croiserez Daniel Morin en doudoune de bûcheron, le téléphone jouera Macabane au Canada. Vous croiserez Bruno Le Maire, ça fera donnez-moi. Je le fais bien, hein.
Ah oui, ouais.
C'est mon côté oriental. Hein, je sais, il est bien caché sous des tonnes d'allures nordiques, mais le Fennec en moi n'attend pour se réveiller que la vue d'une belle merguez. Et c'est mais là que je réalise pas, que cette phrase est 10h09, autre annonce, le HomePod mini, c'est une petite enceinte et déclinée en bleu, en rouge et en jaune. Donc si vous avez des gosses et des feutres, vous l'avez déjà. Hein, 10h15, Tim Cook annonce les AirPods 3, ces écouteurs sans fil qui donnent l'impression que vous êtes foutu deux pailles dans les oreilles pour faire le con à la bar mitzvah de votre neveu. Les 3 sont mieux que les 2, notamment ils sont résistants à la sueur, donc vous pouvez vous faire fouetter dans un club moite ou faire un jogging si vous êtes un peu conservateur. Bon, les AirPods 3 tiendront. Par contre, prenez une douche parce que votre femme n'est pas un AirPod 3, elle va se barrer. 10h18, annonce du MacBook Pro avec un nouveau processeur tellement super puissant que vos emails partent avant même que vous les ayez écrits. Il est 70% plus puissant que le précédent qui venait de sortir. Un produit Apple, vous l'achetez un lundi à 9h, à 18h, vous le montrez à votre mère, elle vous dit « Quoi, t'as pas pris le nouveau, celui de 16h30 ?»« Quel ringard, dégage, bolos !» 10h45, Tim Cook annonce le prix du MacBook Pro, 2 749 €. Évanouissement dans la salle, un stagiaire de 3e qui est dans la presse informatique convulse. 10h50, Tim Cook remercie tout le monde. Thank you guys. Puis il quitte la scène à la californienne. Hein, donc en 2h56, Gwyneth Paltrow l'attend à la sortie en position du lotus et lui offre ses nouveaux encens aux hémorroïdes. Bref, Apple c'est bien, mais c'est cher. Très cher. Ces fils de hyènes nous plument. Le jour de la révolution initiée par Jean-Luc Mélenchon, ce dernier enverra Daniel Obono pendre Tim Cook à l'aide d'un câble de charge Lightning USB-C2 de 3 mètres de long. Parce qu'en fait, ce qu'on paye chez Apple, c'est la marque. Apple, c'est glamour. Si François Bayrou se faisait tatouer le logo Apple dans le cou, mais tous les fans de tech un peu sales iraient se frotter contre son derrière ferme de Béarnais qui en a dans le froc. Alors qu'actuellement, il a la même cote qu'un Huawei de 2017 reconditionné. Tenez par exemple, sur la boutique Apple, alors est apparu lundi un nouveau produit intitulé la chiffonnette. Alors, en général, c'est un suffixe diminutif. Un petit fourgon, c'est une fourgonnette. Une petite maison, une maisonnette. Hein, moi, j'avais un oncle qui était petit et se prénommait Henri. Bon, ben, on l'appelait Henriette.
Henriette.
Hein, voilà. Donc, chiffonnette, Internet, vous vous dites, si je suis la logique de Pastu, notre maître à tous,
c'est il s'agit d'un petit chiffon.
Bah oui. Et c'est ça. Apple commercialise une chiffonnette, autrement dit un bout de tissu, au prix de 25 euros. Voilà, juste parce qu'il y a le logo Apple dessus. Et le pire, c'est que des tas de cons vont acheter la chiffonnette, qui va devenir tendance. Je suis sûr que Patrick Sébastien, lors des fiestas qui fait du lundi matin au dimanche soir, tombe déjà au-dessus de sa tête, la chiffonnette Apple, en chantant son nouveau single, Chiche, on se la met dans l'arrêt. 25 balles, 25 balles la chiffonnette. Ils nous ont pris pour des pigeons, pourquoi les ricains, déclarons-leur la guerre. Macron nous a déjà fâché avec l'Algérie et la Biélorussie, c'est pas Biden, ce vieux castor à dents blanches, qui va nous la faire à l'envers. 25 euros, alors qu'un lot de 4 slip dims, c'est 21,90. Avec un slip, vous nettoyez votre iPhone, pareil, et en plus, vous pouvez le porter. Alors qu'essayer d'enfiler une chiffonnette, c'est inconfortable, il n'y a pas de trou pour les jambes. Alors la fiche présentation de la chiffonnette dit, je cite, constitué d'un matériau non abrasif, doux au toucher. Oui, donc ça s'appelle du tissu. Un tissu est rarement abrasif. Quand vous touchez l'écharpe d'un pote, vous ne vous mettez pas à hurler, ah purée, je me suis sectionné la main, je vais tomber. Alors suite de la description, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple. Alors attention, uniquement Apple. Hein, si vous passez la chiffonnette sur un Samsung, c'est incompatible, l'appareil explose. Donc il nettoie les écrans de façon efficace et sûre, dit la fiche produit. Ah ben, j'espère bien qu'à 25 euros, ensuite, il n'y a plus de traces. Une femme de ménage sans papier, elle prend 9 euros pour toute la maison, c'est nickel. 25 boules la chiffonnette, il faut qu'après, ça soit propre. Donc, astuce, si vous n'avez pas assez d'argent pour un MacBook Pro, un iPad ou un iPhone, et même l'enceinte jaune, vous la trouvez chère. En plus, ça va avec rien, enfin, sauf sur un plan de travail de cuisine, si on vient de vomir toutes ces nouilles au curry. Bon. Eh bien, pour les petits budgets, il y a la chiffonnette, c'est un produit Apple, hein, techniquement, 25 euros, c'est pas cher, sauf pour ce que c'est.
Merci, Tanguy Passion. La bande originale de votre matinée continue juste après The Love Cats et Cure. Love Cats, c'est votre BO ce matin sur Inter. Jeune et Gaulerie sur OCS, la série créée par Agnès Surstel, co-signée avec Léa Domenac, et puis je ne l'ai pas dit, pardon, brillamment réalisée par Fanny Siné, qui est une actrice aussi, ouais, qu'on a vue dans Hard ou encore 10%, dans 10%.
Ouais, et qui a fait la Fémis en fait en réalisation, voilà, et qui avait réalisé beaucoup de courts-métrages et une série sur Arte à laquelle j'avais participé à l'écriture qui s'appelait Loulou. Et elle est jeune, les projets qu'elle a fait, elle parlait de maternité,
avec vachement de tendresse, et donc ça paraissait un casting parfait pour réaliser la
ça fonctionne, ouais, ouais. Ça fonctionne très bien. L'habillage aussi, la bande originale, on l'a entendu tout à l'heure, enfin une partie. Le casting, Jonathan Lambert et Agnès Hurstel, nos invités, mais aussi Jeanne Pasquet, la gamine qui est absolument formidable, Marie Papillon qui joue Adé, qui est dingue de fraîcheur, de drôlerie, de justesse. Thomas Gloria, Paul Mirabel, Nordine Ganzo, Lison Daniel, Baya Kasmi, Jérôme Lenôtre, Ophélia Kolb, Marie-Sona Condé, Jérémy Lévin, Ellie Benchimol, Lionel Lager, tout ce beau monde. Donc dans Jeune et Gaulerie, tout le monde est juste à voir absolument, avec au-delà des prix, et tant mieux d'ailleurs qu'il y ait eu des prix dans un festival, mais j'aurais dit exactement la même chose même si vous n'avez pas eu le prix, parce que la qualité est au rendez-vous et ça fait du bien. D'autres choses dans la culture, Leïla Kadourouzedi.
On va parler d'un premier roman, Six pieds sous sur terre. Pardon. Signé Antoine Dole. Ah. Est-ce que vous connaissez cet auteur ? Nécessairement, il est connu pour une autre activité littéraire. Oui. Ouais, il a déjà vendu a écrit... 8 millions de livres.
Ouais, qui a écrit Mona le Vampire.
Non, pas loin. Un truc pour enfants.
Mortel Adèle.
Absolument. C'est l'auteur de Mortel Adèle. On entend la Aldebert qui reprend ce titre. Il a vendu quand même 8 millions de livres. Et là, il s'est dit, voilà, j'osais pas, je vais passer à la littérature adulte, d'une certaine façon, sans que ça soit érotique, pour autant, avec Six pieds sur terre. C'est une rentrée littéraire qui est importante pour lui, parce qu'une fois qu'on a été assimilé, catalogué dans un exercice, alors il signe pas avec le même nom, Mortel Adèle, et sa carrière là d'auteur pour adultes, mais il essaie de se créer aussi son espace, qui est pas forcément simple de rencontrer un grand succès pour quelque chose et d'être entendu pour le reste. Est-ce que vous avez
d'où le changement de nom, j'imagine,
absolument,
aussi, qui est de confusion.
Est-ce que vous avez un livre qui vous rappelle l'enfance? S'il y avait un livre de votre enfance que vous avez conservé?
Agnès.
Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern.
C'est quoi l'histoire?
C'est une histoire d'amour, je sais même plus exactement le raconter. Ouais.
Lettre d'amour de 0 à 10.
Mais je sais que c'est encore dans ma bibliothèque aujourd'hui.
Ouais. En tout cas, t'as pas hésité à le.
Ouais. C'est un livre qu'on transmet.
À le citer.
Ouais, j'ai hâte. Tous les soirs, mon père me racontait des histoires qu'il inventait, qui s'appelaient Plouf. Et Plouf, en fait, il avait vécu exactement la même journée que moi.
Non.
Sauf qu'à chaque fois, il tombait dans une flaque et ça faisait Plouf. Et je m'endormais toujours en fou rire pour ces histoires un peu nulles que je raconte à mon tour maintenant.
Et voici Jérémy Calvi.
Oh, ambiance.
Le mec sait tout faire. C'est du playback. C'est du playback.
Sans les mains.
Joue avec les pieds.
Et chansons pour les livreurs de nourriture.
Assis sur mon vélo, je vais midi et les soirs partout. Je viens livrer pour vous des trucs plus gras que du boulgour. Gardez devant soi, tournez en tendant le bras pour qu'on me voie. J'ai une parka fluo et un sac plus gros que moi. On me dit dépêche-toi, sinon ça va être trop froid. Des fois j'y vais pour rien, car le client n'a plus faim de serre. C'est un sacré métier libre, faut pédaler pour survivre. Il faut faire ça tous les jours. Le town, c'est un insecte.
C'est vrai. Le town.
Ah, le town.
Oui, c'est pareil que le temps.
Le temps, c'est un insecte.
Non, mais je vais en parler du temps.
Okay. Ah, le temps. Okay.
Une sorte de grosse.
Nous laisser du temps.
Je fais ça pas tous les temps. Sous la pluie, la neige, le vent. Même parfois, pour des trucs qui sonnent fort. Genre des rognons en roquefort. Tu sais, pour livrer tes burgers. Acheter un scooter d'occasion, tout l'avant est à refaire. Du coup, je fais des roues arrière. Vas-y, t'arrête pas. Il faut bien combler la fin du mois. T'as un salaire dérisoire. C'était ça ou le trottoir de terre. C'est un sacré métier livre. peut pas le faire quand t'es ivre. Faut bien gérer son parcours pour pas être à la bourre.
Je l'entendrai bientôt à Lille, Nantes, Montpellier, Cugno, Toulouse, Caen, Auray, etc., etc. Tapez mon nom et votre ville sur internet.
Merde, je crois que j'ai fait une bourde. En dessert, c'était yaourt, mais j'ai mal négocié mon virage. J'ai fait un dérapage sale. Fallait prendre du comté. Ça, on peut le renverser en se disant que c'est du fromage. Du coup, y a pas de tâche. Mais si, ne t'active pas, se retenir, pas si facile que ça. Aucun trajet ne vaut le coup. On ne gagne pas beaucoup, t'sais. C'est un sacré métier libre. De la faim, il nous délivre. Jamais en tenue glamour. Transpire dans le pantacourt. C'est un sacré métier libre. Maintenant, ils vont peut-être vivre. Les restos ouverts le jour. Détends-toi et savoure.
Métier en voie de disparition, quand même.
Bravo. Jérémy Grenville.
Des excuses à présenter, Morgane.
Ben oui, désolé pour Agnès et Jonathan Lambert. J'ai eu Catherine Deneuve à la pause. On va écrire un truc ensemble. Ça va s'appeler Vieille et plombante. Et on va tuer le game si on a le temps. Désolé pour nos auditeurs qui pensaient que l'humour était un monde cool avec des gens cool et bienveillants. Eh bien, pas du tout. C'est la guerre. D'ailleurs, Daniel, à votre avis, il est où ce matin? Au Père-Lachaise. Allez, 25. Allez, de rien.
Jeanne Gollery sur OCS, OCS Max. Merci et bravo,
merci
Agnès sur
Stéphane.
Merci beaucoup, Jonathan Lambert. C'est à vous. Voir et à revoir donc sur OCS cette série, parce que ouais, ça va très très vite en termes de vannes aussi, et ça supporte la rediffusion, parce que j'ai eu la chance de pouvoir la voir dans le courant de l'été et de la revoir là pour préparer l'émission. Ça supporte totalement la rediff, et avec bonheur. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui.
Non.
On sera là demain, même adresse, avec Michel Bussy et Le Petit Prince.
Ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne grève.
Michel Bussy et Le Petit Prince, ça sera demain dans la bande originale. Passez une bonne journée sur Internet.